Radio Okapi. Okapi. Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachamo. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Ravi de vous retrouver encore ce matin pour vous servir. Nous allons parler aujourd'hui du port d'armes dans les débits de boissons. Que dit la loi à ces sujets? On en parle avec Maître Ruffin Luko Musubao. Il est juriste, écrivain et chercheur en droit, qui vient d'ailleurs de faire son entrée dans ce studio. Maître Ruffin Luko, vous allez les retrouver dans quelques instants. Et dans la deuxième partie de cette émission, nous allons aborder un autre thème qui va certainement vous intéresser. Nous allons parler de l'exode rural en République démocratique du Congo, le déplacement massif des populations vers des milieux ruraux, vers le centre-ville ou d'une ville à une autre à la quête de meilleures conditions de vie. Quelles sont les causes et solutions? Eh bien, on en parle dans la deuxième partie de cette émission à partir de 11h05, heure de Kinshasa. Willem Lungamba assure la mise en onde de cette émission. Marcel Ngombo est à la coordination. Tati Mapoukou à la réalisation. Micro, c'est Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous et excellentes conditions d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Encore une fois, bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Nous parlons aujourd'hui du port d'armes dans les débits des boissons. Que dit la loi? Près de 6 personnes, vous savez que près de 6 personnes ont péri dernièrement et 15 autres blessées dans une explosion survenue le 7 avril dernier dans la soirée dans un bistrot du camp militaire Katindo à Goma, au Nord Kivu. Pour certains, cette catastrophe doit interpeller les dirigeants par rapport à la présence des hommes en armes dans les bistrots et débits de boissons. Il est courant de les voir s'enivrer et parfois perdre le contrôle. Le port d'armes ou d'autres effets militaires est-il autorisé dans les boîtes, débits de boissons et autres? On en parle avec Maître Ruffin Luko Musubao, juriste, écrivain et chercheur en droit. Il vient d'ailleurs de publier son dernier ouvrage intitulé « Droit pénal congolais, principes et subtilités », tome 3. Ouais. Voilà. Maître Ruffin Luko, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour à tous nos auditeurs.
Bienvenue dans cette émission. Alors, que dit la loi par rapport au port d'armes et autres effets militaires dans les débits de boissons?
Merci beaucoup pour ce thème-là qui est intéressant et qui, raconte les besoins de la population actuellement pour savoir comment ces choses peuvent nous arriver et qui est-ce que nous n'avons pas de lois, nous n'avons pas des autorités pour faire appliquer ces lois, pour faire respecter nos lois, parce que tout simplement, vous voyez, nous n'avons pas tiré de leçons. Rappelez-vous, la population de Kivu se rappelle, après l'arrivée des réfugiés rwandais en 1994, il y avait une avalanche d'explosions de la ville de Goma. Donc après l'épidémie de choléra qui avait, n'est-ce pas, suivi l'arrivée massive des réfugiés rwandais, nous sommes dans les années 94, eh bien, il y a eu des explosions. Donc, c'est-à-dire les réfugiés ont amené des armes, parce que comme l'armée rwandaise, ex-phare à l'époque, avait traversé avec armes et munitions, armes de guerre, la banque,
tout ça, oui.
Ce qui a été comme la suite de leurs arrivées, n'est-ce pas, c'était les explosions dans les églises, dans les toilettes, dans les marchés, dans les petits marchés.
C'était quoi, des grenades?
C'était des grenades qu'on déposait partout. et on n'a pas tiré de leçons, ça reprend encore. Donc cette sécurité-là venait du Rwanda d'alors, à l'époque, nous sommes dans les années 94. Actuellement, nous n'y a pas tiré de leçons, vous vous rappelez qu'un peuple qui ne tire pas de leçons est condamné à revivre son histoire. Mmh. Alors, qu'est dit la loi? La loi portant organisation des forces armées et de la police réglemente les ports d'armes par les militaires, parce qu'il faut savoir que pour l'armée, lorsque les militaires est formé, soit après, c'est ce qu'on appelle le CI, le centre d'instruction militaire. Lorsqu'il fait son CI, dans notre pays, c'était Kamina, Kitona, Kotakoli, pour ne citer que cela. Mmh. Eh bien, les jours où on
et Fokananga aussi.
Et Fokananga également. Mon mec, Fokananga, c'est pour les officiers.
Les officiers, bien sûr.
Mais ce que j'appelle centre d'instruction militaire, c'est pour les soldats. Mmh. Alors, lorsqu'on lui lit, lorsqu'il a fini sa formation militaire, ou sa formation de police, et que les commandants, soit Dikan, ou les commandants de son unité, doit lui lire, parce que c'est ce que prévoit la loi, doit lui lire le règlement militaire, le règlement de police. Après la lecture, cet militaire, qui est désormais en divorce à partir de ce moment-là avec la vie des civils, il devient militaire, non, un homme en uniforme, on lui dote d'une arme de guerre. Pas une arme de chasse, mais une arme de guerre. Et cette arme devient comme son ID, donc son identité. Mmh. Eh bien,
arme avec munitions.
Il est doté d'une arme. Il est donné d'une arme. Et cette arme, c'est comme son identité. Ça veut dire, ça porte un numéro qui est identifié à lui. Cette arme-là porte un numéro qui est identifié à lui. Et pour le militaire, en particulier, il n'abandonnera plus son arme que si l'autorité qui les lui a doté a décidé que cette armée devenue vétiste, on la change.
Mais
il ne peut plus le perdre.
Est-ce qu'on
ça,
peut...
ça, c'est d'abord le principe.
Ça, c'est le principe. Mais est-ce qu'il doit se retrouver dans un débit de boisson?
Voilà, c'est là que nous allons.
Avec
maintenant,
l'arme.
En ce qui concerne la fréquentation de débit de boisson,
oui.
D'abord, le principe, c'est que le militaire ne peut pas accéder à des débits de boisson. Ça, c'est le principe. Là, il y avait ce qu'on appelle les messes des officiers pour servir à tout cela. Mais c'est des officiers.
Là, c'est pour les officiers, non?
Pas
pour
mais les non, parce que pour le militaire, il y avait aussi des cantines. Il y avait des cantines. Il y a des endroits.
Oui.
Tu vois, le militaire.
Où il peut aller manger et prendre sa bière.
Et prendre sa bière. Mm. Pas avec les civils. Donc c'est cette dégradation de la situation de notre pays qui fait que dans la confusion généralisée, nous voyons ces choses-là. Le militaire, homme en uniforme, ne pouvait pas prendre la bière avec des civils. Ne peut pas prendre la...
Mais donc, aujourd'hui, on retrouve même dans les camps militaires des débits de boissons.
Dans
on
les
retrouve
militaires,
et civils.
Et civils, et tout le monde, et leur famille. Mm. Bon, le cas de Goma, comme c'est le cas qui nous sert de référence ici, mais c'est ce drame-là de Goma s'est passé plus ou moins peut-être à des degrés différents dans la plupart de nos camps militaires. La promiscuité est telle que c'est Dieu qui protège les gens là-bas. Dans nos camps militaires, si vous allez à Kokolo ici, ou à Ntiachi, ou à Ex-Mobutu, à Kabila, à Matete, pour ne citer encore que c'est ça, à Vangu, à Lubumbashi, à Sayo, à Bukavu. La promiscuité, donc, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a plus aucune mesure d'urbanisation dans les camps militaires. À telle enseigne que on va même des parcelles dans les camps militaires aux civils qui viennent construire
qui viennent
et mettre des locataires. Alors, oui. Mettre des locataires, dans cette confusion généralisée où l'autorité urbaine n'a aucun pouvoir sur les camps militaires, lorsqu'il y a assainissement dehors, dans d'autres communes, vous ne pouvez rien faire dans les camps militaires qui sont au milieu. Regardez à l'époque, la ville de Kinshasa, c'était Kalina, qui est aujourd'hui Gombe.
Oui.
Et les camps Kokolo étaient très éloignés de Kalina. Les camps Kokolo étaient très éloignés de Kalina lorsque ces camps étaient construits. Nous sommes là dans les années 20. C'était très éloigné du centre-ville. C'était très éloigné de la ville. Ce qui était là-bas, c'était des villages et non de circonscriptions organisées. Alors, ce qui fait que les militaires ne peuvent pas prendre la bière avec les civils.
Les civils.
Ah, donc,
on ne peut pas retrouver, c'est
l'indiscipline. C'est-à-dire, et c'est une infraction pénale militaire. La violation des consignes, ça c'est une consigne militaire, il ne peut pas se trouver avec des civils là-bas. Mais hélas, pour nous, ce qui était l'interdiction est devenu la règle. On voit des militaires et des civils boire dans des débits de boissons. Or, en ce qui concerne le débit de boissons, les écalas, tout ce qu'on connaît, oui. Et les boîtes. Le régime légal de ces exploitations, c'est que chaque boîte, chaque débit de boisson doit avoir un service de sécurité.
Et on voit même des gens, on peut écrire pas de port d'explosifs.
Oui. C'est écrit. Mais le service de sécurité est obligé de
veiller à
prendre en consignation toutes les armes de toutes sortes qui peuvent entrer dans la boîte. Parce que la boîte est essentiellement pour les civils. Et ces civils-là doivent être protégés. Et leur protection passe d'abord par le fait que, quel que soit ce que vous êtes, eh bien, pour entrer là-bas, l'arme n'entrait pas. C'est comme dans les avions. Mmh. Là, donc, même si vous êtes un général dans l'avion, l'arme doit être consignée au service de sécurité de l'avion, c'est l'équipage. Et donc, dans les boîtes, vous y entrez, comme la plupart des grandes boîtes font payer, vous avez un droit de consommation que vous payez avant d'entrer, et bien, à la même place, vous voyez, c'est pourquoi il y a ce qu'on appelle le bateau à Makassi. Ces bateaux à Makassi-là, ont remplacé les services de sécurité. Donc, les bateaux à Makassi doivent être, c'est légalement établi que, et doivent prendre toute arme, donc toute personne qui entre, on le fouille. Et ça, c'est, nous étions en avance depuis longtemps. Depuis longtemps, nous avions ces réglementations-là qui exigeaient que dans les débuts de boissons, non seulement on interdisait les mineurs d'y entrer, mais également toute personne armée devait laisser son arme devant. Maintenant là, le drame arrive parce que, évidemment, on doit, comme on dit, toute proportion gardée, toute réserve gardée. Mmh. Nous ne savons pas si cette explosion-là a été déposée par une personne qui est entrée.
Pour certains consommer, parleraient ou bien d'une, d'une bombe artisanale.
Oui. Alors donc c'est tout cet ensemble-là, nous ne savons pas exactement.
Il faut des enquêtes pour déterminer tout ça.
Les enquêtes ont commencé, bon, espérons que celles-ci donneront, n'est-ce pas, un résultat. Mais au moins, le régime fait que dans ce genre d'endroits, une arme, un explosif ne peut pas entrer, ni a pas droit, n'a pas droit de citer. Donc c'est en violation, n'est-ce pas, de cette réglementation-là, en violation là de ces consignes-là, en violation de ces règlements militaires, des règlements de police, que ce drame est arrivé, parce que tout simplement, encore une fois, chez nous, nous les dénonçons sur ces antennes, on ne tire pas de leçons. Ceux qui ne font pas respecter nos lois doivent être sanctionnés. Il y a donc une défaillance en ce qui concerne éventuellement les commandants de ces camps qu'on appelait à l'époque, lorsqu'on grandissait ces camps, s'appelait cas Israël. C'était un cas qui était très éloigné de la ville de Goma, très éloigné. Cas Katino, c'était très éloigné. Maintenant aujourd'hui c'est au milieu de la ville.
Aujourd'hui c'est au milieu de la
ville. Tous les camps de notre pays sont au milieu de la ville. Les camps Sayo de Bukavu étaient très éloignés. Les camps rive gauche de Kisangani, très éloignés. Maintenant c'est au milieu
maintenant,
de la
ville. Maintenant les maisons tout autour.
Rien n'a pas suivi et nous avons maintenant à déplorer tous ces drames là. Nos camps militaires doivent être assainis. D'abord, le premier assainissement de nos camps militaires.
Donc, on peut dire qu'on ne doit pas retrouver des débits de boissons dans les camps militaires.
En principe, non. C'est comme dans les campus, dans les cités universitaires.
Mais les universités, c'est pareil aussi.
Mais lorsque ça, il y aura une explosion dans les camps. Mais dans les universités, maintenant, aujourd'hui, que nos officiers commencent tous à étudier, nos officiers étudient dans les campus. Avec armes et munitions, si on doit dire ça, comme c'est l'expression. Ils viennent étudier, parce que c'est leur droit d'étudier dans l'université. Oui. Et ils sont armés. Moi, à l'époque, dans les années 80, j'ai étudié avec des généraux, des officiers de notre armée, des officiers généraux. Armée. Ils sont venus reprendre les études. Armés avec leur garde du corps. Et au besoin, lorsque c'est le moment de la pause, le professeur, l'enseignant a commencé à 6 heures, parce qu'il y a un enseignant visiteur qui vient de tel pays, qui vient de telle université. Il a commencé à 6 heures, il s'arrête à 12 heures, l'état de pause de 12 heures à 14 heures, c'est la bière, c'est dans les cités universitaires avec eux.
Avec eux.
Alors, mais si ça arrive, vous voyez donc, c'est cet ensemble-là de la faiblesse et de la respectabilité de nos textes, de nos lois, de nos règles, qui nous amène à tous ces drames-là que nous déplorons chaque jour et on ne tire pas de leçons encore une fois. Personne ne va être sanctionné. Chez nous, personne n'est pas sanctionné. Et lorsque personne
n'est sanctionné... Et les enquêtes ne vont pas aboutir.
Et les enquêtes, bon, peuvent commencer, mais vont se réaliser. On va jeter ces enquêtes-là dans la qui est à côté là-bas et personne ne saura la suite. Donc, est-ce qu'on ne peut pas arrêter ça? Est-ce que personne ne peut nous écouter chaque fois que nous dénonçons ces choses? Personne n'écoute, les enquêtes ne vont pas aboutir, on ne saura pas si c'est une bombe artisanale venue de Bukavu, venue de Sadef, on ne saura pas.
On ne saura pas.
Des pays voisins, on ne saura pas. Venue du M23 ou de je ne sais pas quoi, on ne saura pas. Il faut qu'on sache c'est quel genre d'explosion. C'était une bombe, c'était une grenade, c'était quelle arme.
Et comment prévenir cela.
Voilà, et comment prévenir ça.
On va accueillir les auditeurs. Nous avons Platinum Bombo en ligne depuis Mbandaka et Jacques de Lumbashi. Vous voulez également participer à cette émission, mesdames et messieurs, appelez au 081 890 63 94.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Bien. Port d'armes dans les débits de boissons, que dit la loi à ces sujets? Nous avons Platini Mbombo en ligne depuis Mbandaka. Bonjour. Bonjour Platini. Platini Mbombo, bonjour.
Je vous dis bonjour.
On vous écoute.
Bonjour l'invité. Bonjour. Merci. Je pense que l'idée est louable parce que, comme vous avez dit, pour le milieu des boissons, c'est aussi interdit avec les ports des armes. Mais ce que moi, je fais quand même poser la question à l'invité, c'est justement autour de ce qu'on a eu à voir ici dans la ville de Mbandaka, où moi je suis, parce que j'étais dans une bar où on a interdit d'être entré avec une porte d'armes. Mais il y a un policier qui était d'entrée, fait boisson, et au cours de toutes les seules manifestations, il a tiré encore des balles à l'air. Et c'est là où ça a créé un sérieux problème dans cette barre-là.
Et pourquoi il a tiré? Platini, pourquoi ce policier avait tiré des balles en l'air dans ce bistrot-là?
Oui. Et il a tiré un coup de balle à l'air parce qu'il a beaucoup bu, il a beaucoup pris, il a beaucoup bu. Et aussi, il a tiré un coup de balle à l'air. Mais le propriétaire de ce bar, ils ont eu de la justice. Et après tout cela, et à la fin du compte, on a vu qu'il est sous policier, d'être libéré, il se marche dans la ville, tout ça. Alors moi, je voudrais quand même avoir l'éclaircissement, l'invité qui est au studio avec vous. Est-ce que ici, qui dit la loi, vraiment? Il y a partout, même si vous entrez dans un milieu, soit dans une ONG, tout ça, on dit que non, le port d'armes est interdit. Là, tout le monde le sait. Maintenant, là, est-ce qu'il y a un code pénal autour de ça? Je ne sais pas. Si l'invité peut nous expliquer, papa, même petite question, parce que je vis ici dans la ville. Si on arrive vraiment à trouver les gains des causes, apparemment, vous n'arrivez même pas à trouver les gains des causes. C'est pour laquelle je voudrais quand même avoir le classement autour de ça, M. Julie.
Bien, merci Platini Mbombo de Mbandaka. On va donner la parole à Jacques de Lumbashi. Bonjour.
Bonjour, M. Julie. Bonjour à Radio Côté.
Quelle est votre question, Jacques?
Ma question est celle-ci. Il y a un militaire qui était entré dans un bar un jour avec l'arme. Et maintenant, quand il était entré avec l'arme, maintenant les gens qui prenaient la bière ont commencé aussi à acheter de la bière pour ce militaire-là, pour créer des connaissances. Et maintenant, le militaire est ivre, il avait laissé son arme. Maintenant, quand il avait laissé son arme, les services de sécurité n'étaient pas là. Maintenant, le gérant a pris cette arme pour garder ça. Un jour, le militaire-là, il est revenu pour chercher son arme. Maintenant, il a dit que non. Vous m'avez exploqué, vous m'avez pris mon arme, je vais vous porter plainte. Le militaire est allé porter plainte. Maintenant, on a pris le gérant là, le gérant, il est en prison. Maintenant, que dit la loi à ce sujet-là? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que le militaire peut aussi entrer avec l'arme dans l'église?
Bien, merci, aussi, merci, Jacques.
Il vient avec les armes dans l'église, par-ci, par-là.
Oui.
Merci.
Bien, maître Louko, à vous la parole.
J'étais en train d'écrire la question. Bon, nous avions dit, vous aviez dit au départ que c'est courant dans la plupart de nos villes. Donc, Goma sert juste de prétexte, mais c'est récurrent. Alors, je vais rappeler à Platini de Mbandaka que le code pénal militaire prévoit ce qu'on appelle la violation des consignes. Nos militaires et policiers sont condamnés chaque jour par le tribunal militaire des garnisons des différents ressorts. C'est l'infraction principale, comme pour les civils, les vols, l'abus de confiance et les viols. Pour les militaires, l'infraction principale, c'est la violation des consignes. La consigne militaire, il y a la consigne générale et la consigne spécifique. La consigne spécifique, c'est notamment, entre autres, vous ne pouvez pas entrer dans un débit de boisson avec une arme. Vous ne devez pas. Et donc, si vous avez omis de laisser ton arme à Liesir avant d'aller vous. C'est vrai, le militaire, lui, a la consigne qu'il ne peut pas laisser son arme. Mmh. Il ne peut pas se défaire de son arme. Mais pour aller dans des débits de boissons ou dans les églises, dans l'église, le militaire ne peut pas entrer avec une arme. Parce que c'est un lieu public où il y a beaucoup de gens. Il ne peut pas entrer avec une arme. Donc, en ce qui concerne les églises.
Et des grenades tout autour de la ceinture.
Et les grenades tout autour pour prouver que c'est un commando, c'est un Rambo. Oui. Tout ça, vous ne pouvez pas entrer avec ça dans un débit de boisson. Alors, lorsque vous serez attrapé d'avoir fait cela, par exemple, on peut présumer que celui de Mbandaka, après avoir beaucoup bu, on lui a demandé de payer la facture.
Il n'avait pas l'argent.
Alors, il a intimidé les gens, il a tiré de sommation et il est parti. Non seulement en tirant, il viole la consigne, mais aussi il fait la dissipation des munitions. C'est une autre infraction militaire.
C'est une infraction
militaire. Donc, ça veut dire en principe, celui-là, si vous allez vous prendre, où que vous soyez, si vous allez vous prendre face à un militaire ou un policier qui fait ça, vous vous plaignez à l'auditorat, il sera arrêté. Il sera arrêté. Notre justice militaire, sur ces questions-là, ne tergiverse pas. Il y sera arrêté. Et il faut donc le faire. Et les gérants avaient commis l'erreur de garder l'arme. Les gérants ne pouvaient pas.
Il a gardé peut-être parce qu'il était ivre. Bon,
il devait aller déposer ça chez l'autorité.
Il n'avait pas le droit de garder l'arme.
La seule chose que vous pouvez faire, c'est de prendre cette arme comme gérant, vous le prenez, mais aussitôt après, aller chercher l'autorité de proximité. Parce que c'est une arme de la défense. C'est une arme de la nation. C'est une arme de l'armée. Lui a été doté de cette arme, mais c'est une arme de la population au travers le ministère de la Défense, au travers les forces armées. Alors, aussitôt que vous avez repris cette arme-là, vous devez aller, si vous ne pouvez pas, s'il n'y a pas un auditorat à côté, vous cherchez le commandant de proximité, ça peut être le commandant de police ou le commandant de l'armée, vous dites, vous reportez les faits et on va rechercher ces militaires. Vous voyez donc, il a commis donc l'erreur, n'est-ce pas, de garder l'arme devant lui et ça. Maintenant, et le militaire a été très malin ou le policier? Pour dire non, vous m'aviez estorqué. Parce que comment il peut expliquer que l'arme est restée entre les mains?
C'est ça, il ne peut pas.
La seule façon, c'est de, comme on dit, allouer les bangos rubriques.
Il
a fabriqué les beurres à l'autre partie pour dire non, vous m'avez escorqué. C'est ici que vous avez cette arme. Et cette version est passée parce que tout simplement, et nous croyons que cette population, nos compatriotes, nous écoutent assez cette stratégie-là. Vous avez ramassé l'arme ou vous avez neutralisé un criminel. Et bien rapidement, il ne faut pas rester avec cette arme-là parce que si vous restez avec cette arme-là, devant vous et que des enquêtes viennent retrouver cette arme entre vos murs, dans votre maison ou dans votre cachette, eh bien, vous serez responsable de cette arme de guerre et vous serez jugé par la justice militaire alors que vous êtes civil. Donc, ça, c'est, doit être considéré comme dit, c'est important d'agir comme cela. Alors, Jacques de Lubumbashi, qui a parlé de l'arme abandonnée et qui a été pris par les gérants, là où nous avons est-ce qu'on peut entrer dans une église avec une arme?
Jacques
de Lubumbashi, l'arme dans les églises, non. Le militaire, les officiers qui prient, et ils sont nombreux, les militaires, officiers, et lorsqu'ils entrent, ils sont disciplinés. D'ailleurs, rarement, ils viennent à tenir. En tout cas, ce qui concerne les officiers,
ils viennent comme tout le monde, prier.
Et ils peuvent venir avec ses gardes du corps, mais généralement en civil.
Oui.
Et s'il est plus gradé, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de responsabilités, les gardes du corps peuvent rester dans la voiture et lui va prier parce qu'ils ont le droit, n'est-ce pas, de prier comme tous les autres citoyens. Et en ce qui concerne les officiers, dans la plupart des cas, de ce que nous voyons, ils sont disciplinés parce qu'ils donnent l'exemple. Donc, dans les églises, l'arme ne peut pas entrer. Déjà, les églises n'ont pas de service de sécurité pour s'occuper de ceux qui viennent garder. Mais en tout cas, en ce qui concerne le principe et la consigne principale, dans les églises, vous ne pouvez pas venir avec une arme. Vous la laissez à la maison ou vous la laissez dans la voiture. L'état que vous finissez la prière pour reprendre votre arme parce que le militaire a la consigne générale qu'il ne peut pas se défaire de son arme. Il doit avoir son arme partout parce que ça le protège. Lui, c'est un militaire. Son arme principale, son
activité. Mais il y a d'autres qui ont les pistolets autour de la ceinture. Et c'est bien gardé.
En principe, ouais. le régime du pistolet, ça doit être caché. Le pistolet, tu vois, chez nous, c'est le Mativi. Le régime du pistolet, c'est avoir une arme sur toi et que personne ne le remarque pour ta protection. Mmh. Et le pistolet, rappelez-vous, c'est essentiellement pour les officiers. N'oublie pas ça. Les pistolets, c'est essentiellement pour les officiers qui ne peuvent pas se trimballer avec l'arme de guerre de type individuel, c'est-à-dire Kalachnikov AK-40. et c'est à la place. Donc c'est une sorte de reconnaissance de leur grade. Il ne peut pas se trimballer, n'est-ce pas, avec une arme de guerre, Dijar, Kalachnikov, Kondote, tous les militaires, tous les policiers. Mmh. C'est ainsi que, de par les responsabilités, ils ont le revolver. Ces revolvers-là doivent être cachés.
Même leur garde corps.
Mais leur garde corps, éventuellement, leur garde corps par rapport au grade de leur chef, ils peuvent avoir des pistolets. Les pistolets ont la particularité, ce sont des armes cachées, des armes discrètes. Donc, chez nous, dans cette façon-là de voir. D'ailleurs, ces armes à minuscule doivent être mises sous la ceinture pour que personne à tes côtés ne réalise que vous avez cette arme-là. Mais alors, malheureusement, tout le monde voit la façon dont il porte ça. C'est pour que tout le monde voit qu'il a une arme. Même si, parce que le militaire, lorsqu'il est en civil, il doit avoir son arme. Et cette arme-là, parce qu'il y a des missions que le militaire ou le policier ne peut réaliser efficacement que lorsqu'il est en civil. Et que donc, lorsqu'il est en civil, lui doit toujours être armé et que son arme ne doit pas être visible. Parce que c'est de l'intimidation déjà pour la population. Lorsqu'on te voit que tu es armé, eh bien, tous les gens, toutes les personnes qui te rencontrent ont de la réserve. Et ils se méfient parce qu'ils voient que vous êtes armé. Donc, c'est important que ces consignes-là militaires et de la police soient scrupuleusement respectées par tous les policiers, tous les militaires.
Bien, on va accueillir d'autres auditeurs qui sont intéressés par les sujets. Nous parlons du port d'armes dans les bars et bistrots. Que dit la loi à ces sujets? Baudouin, vous êtes à Kasumbalé, c'est à Justin et à Magui, Étienne également à Magui. Baudouin, bonjour.
Bonjour Radio Capi. Merci de m'avoir associé encore pour la dernière fois à ce débat ici. Hein.
On vous écoute.
Vu la quintessence du débat, moi je pense que vraiment l'invité doit beaucoup plus nous aider. C'est pas seulement dans les milieux de bistrots où le port d'armes est interdit, vu les exemples qui ont été donnés par nos prédécesseurs. Moi je pense que la société civile et les responsables militaires, les officiers doivent quand même aider la société quant à ce. Il y a beaucoup de problèmes par rapport aux armes ici. C'est comme par exemple, je peux donner le cas d'un bailleur qui logeait un locataire dans sa parcelle. Et après quoi, il va se rendre compte que le locataire avec sa femme avait des problèmes sur ses. Le locataire là qui était militaire a fait brandir l'arme sur sa femme, maintenant d'ailleurs en faisant l'intervention pour les séparer afin qu'il n'y ait pas de incident, il était obligé de maîtriser la personne et puis prendre l'arme. Maintenant par rapport à ce que l'invité venait de nous dire ici, moi je pense que la population doit être informée, beaucoup plus éduquée par rapport à ces façons-là de faire les choses. Parce que, état ignorant, je pense qu'il peut y avoir des incidents qui feront assez que celui qui avait raison puisse perdre la raison par rapport à cela. Alors, je pense vraiment que votre émission est très pertinente et puis très importante pour toute la population, surtout dans les milieux ruraux, dans les périphéries où la loi n'est pas bien interprétée, où peut-être qu'il n'y a que la radio qui passe facilement. Dans votre façon de faire les choses, je pense, en tout cas, vous avez le devoir de nous aider et aider toute la population de notre pays en général. Parce que le problème d'armes ici, c'est un problème qui est très délicat. Donc, par ignorance, par inadvertance, les gens se retrouvent dans des conditions très difficiles aujourd'hui en prison, innocemment, parce qu'ils n'ont pas su bien faire, parce qu'ils n'avaient pas d'informations, parce qu'ils ne savaient pas comment les choses pouvaient se faire. Alors, je profite pour, par la même occasion, de demander à l'invité vraiment de nous aider, de ne pas se limiter seulement au bistrot ou au milieu des bières, comme on vient de le dire par rapport au sujet, de s'élargir un peu. Il y a dans des parcelles, à l'église, et au champ, partout là-bas. Donc cette population-là a besoin vraiment de cette émission et de cette éducation-là. Voilà un peu ce qui a été ma contribution quant à ce. Merci.
Merci Baudouin. Justin, vous êtes à Magui. Bonjour.
Bonjour, monsieur, je dis Daniel Kachama, vraiment un sujet très intéressant. Je voulais poser seulement la question, moi je travaille à l'hôpital. Il y a eu un jour, une femme d'un militaire est venue à l'hôpital, elle était malade du moins. Et du coup, le sujet lui a donné le traitement et la femme a réagi contre ce traitement-là. Et le militaire était sur place avec son arme à l'hôpital. Et du coup, le militaire a commencé à tirer et tous les infirmiers ont fui et même le médecin.
Et pourquoi il a tiré à l'hôpital?
Bon, finalement, quand la femme a réagi au traitement, c'était pas l'infirmier. Alors, tous les gens ont commencé à tirer, tous les infirmiers, toute l'équipe médicale ont fui.
Justin, oui. quand vous dites que sa femme a réagi au traitement, qu'est-ce que cela veut dire?
C'est-à-dire, on lui a donné un coup de... On lui a donné le jet de la pénicilline et il a fait un choc anaphylactique. Et c'est ainsi que, quand son mari a dit ça, son mari a trouvé que sa femme est en train de mourir par une piqûre donnée par les fumiers. Et au lieu de maîtriser, il a commencé à tirer le coup de base, au lieu de laisser les infirmiers se malade.
Et tous les infirmiers ont pris la fuite?
Oui, oui, c'est le coup de balle comme ça qu'il pouvait attendre encore là-bas. Et tout le monde a fui. Et cette femme a trouvé la mort. Et je pose la question à l'invité. On nous a condamné qui? Les militaires ou bien l'équipe médicale qui était à l'hôpital?
La femme est morte parce qu'il n'y avait plus personne pour la prendre en charge,
pour continuer le
traitement.
C'est ça. Puisque la femme est morte, puisqu'il n'y avait pas personne pour prendre en charge, ils ont fui le coup de balle. Alors, cette femme a trouvé la mort là-bas. C'est pourquoi je pose la question à l'invité. À qui réside la force entre l'équipe médicale et le militaire qui a tiré précocement, comme ça, sans attendre qu'on prenne sa femme en charge?
Oui, qu'on puisse terminer le traitement, oui.
Oui, oui. Et puis, les portes d'armes dans le marché. Nous voyons des militaires, des policiers au marché avec des armes ici. Ils sont en train de circuler dans le marché avec des armes. Et voir même dans le terrain de football, quand il y a un match, est-ce que c'est autorisé par l'État ou bien c'est une façon d'intimider la population?
Bien, merci à Justin. Étienne, vous êtes aussi à Mahagui. Bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama et bonjour à l'invité.
Bonjour.
Quelle est votre question?
Je vous remercie beaucoup pour le choix de ce thème qui semble être très capital. Concernant le phénomène de la circulation d'armes parmi les différentes, parmi au milieu, je dirais la plus grande responsabilité revient à notre gouvernement national. Monsieur l'invité, vous allez confirmer avec moi que dans ce pays, nous avons un très très sérieux problème de l'applicabilité de la loi. Donc, on prend tout à la légère. Je rends la balle à notre gouvernement national, qui doit très 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 bien recruter les éléments de FRDC. Parce que le fusil ou l'arme, ça tire très très vite, dans une seconde. Lorsque même un enfant de 12 ans prend une arme, il peut mettre un papa de 30 ans à genoux. Parce que ça tire. Donc la responsabilité revient au gouvernement. Dans ce pays, il y a la légèreté de l'applicabilité de la loi, il y a le désordre dans l'armée. Je vais donner par exemple un exemple ici à Mahagui, comment un militaire peut être au cours de la route et rationner les 2000 chalets, les 2000 francs chez les passagers. Et s'il les donne pas, on les ravit les contacts. Est-ce que c'est ça la mission des militaires vraiment réellement? Donc dans ce pays, nous avons un très très sérieux problème. Il y a un désordre organisé dans notre armée. Comment un rebelle par exemple, quelqu'un qui vient du groupe armé, réclame non, il faut... Et si de suite des conditions pareilles, on les réintègre dans l'armée. Donc, il y a le méli-mélo. On a mélangé le tout et tout évolue dans le désordre.
Bien, merci beaucoup pour toutes ces préoccupations des auditeurs. Merci Étienne et Justin Baudouin. Maître Loukou, vous avez la parole.
Il ne peut pas dire qu'il y a un désordre organisé dans l'armée, non, pas du tout. L'armée a des faiblesses, oui, par rapport à l'insécurité à l'est du pays. Mais le désordre n'est pas organisé. Il y a toujours des militaires incontrôlés, des militaires qui ne suivent pas les consignes. C'est pourquoi dans le code pénal militaire, il y a ce qu'on appelle l'infraction des violations des consignes, d'indiscipline militaire, qui sont prévues et punies pour réprimer, n'est-ce pas, toutes ces mauvaises attitudes et mauvais comportements. Donc, je confirme avec toi qu'il y a une légèreté en ce qui concerne M. Étienne, en ce qui concerne le respect de nos lois. Nous les dénonçons chaque jour des responsables, des administrations centrales, des ministres et consorts qui ne savent pas faire respecter les lois de son secteur, de son département, de son ministère. Ça, c'est un déficit depuis presque l'indépendance. Et je me rappelle que dans le livre Esprit des lois de Montesquieu, il stigmatisait ce qu'on appelle l'esprit de justice. L'esprit de justice. Cet esprit-là devait être dans les chefs de tous les animateurs, selon le philosophe. Tous les animateurs doivent avoir dans sa tête, dans sa conception, dans ses convictions, l'esprit de justice. C'est dans le livre Esprit de loi. L'esprit de justice, ça veut dire que partout où un responsable passe, qu'il se rappelle qu'il a des textes de loi qu'il doit faire observer. C'est lui l'incarnation dans son secteur du respect de ce texte de loi. Si le ministre de la Défense ne fait pas respecter les lois de la Défense nationale dans son secteur, si le ministre de la Justice ne fait pas respecter les lois de la justice et les lois des procédures dans son secteur, eh bien c'est la débandade. Mmh. Ça veut dire par exemple, lorsque la population dénonce par exemple à Mahagi les contrôles par les militaires des voitures, n'est-ce pas, des populations pour rançonner. Il faut donc que le commandant de la ville fasse respecter ça, fasse respecter ce qu'on appelle la consigne militaire. C'est pas le militaire à faire ça. C'est pas le militaire à faire ça. Sauf si c'est dans une zone de guerre, dans une zone opérationnelle, par exemple dans l'état de siège. Mmh. Ça devient maintenant le militaire qui le font, mais qui le font dans le respect des consignes de la hiérarchie. Et il y a beaucoup de consignes que les militaires reçoivent, et que chaque fois que vous, population, vous avez remarqué que le militaire n'a pas respecté sa consigne, il faut rapidement dénoncer ça à l'auditorat militaire le plus proche ou auprès du commandant le plus proche. Vous voyez, beaucoup de barrières ont été levées par le commandement national, parce que tout ça, ou le commandement opérationnel de l'état de siège, parce que tout simplement ils ont été au courant qu'il y a une barrière fabriquée de toutes sortes et que les militaires ont improvisé, et que aussitôt que la hiérarchie a été au courant, ils ont ordonné qu'on puisse lever. Et vous avez eu beaucoup de reportages où des généraux, des commandants d'unités sont partis faire lever des barrières et arrêter ceux qui les ont animés. Mmh. Alors lorsqu'il parle maintenant des hôpitaux, hein, je vois l'exemple de
Justin
par rapport à Justin avec son
le ministère qui est venu difficile. Avec sa femme.
D'abord, à qui la responsabilité? C'est la question principale. Oui. Qui est le responsable? D'abord, chaque hôpital ou chaque dispensaire, en principe, chaque hôpital a un service de sécurité. Le règlement de déploiement de la police, tous nos hôpitaux généraux ont la police devant la porte. Essayez d'observer dans votre ville, s'il n'y en a pas, il faut dire qu'il n'y en a pas. Mais les hôpitaux, en commençant par Kinshasa, l'hôpital général, il y a la police. L'hôpital Ngaliema, il y a la police. Les cliniques universitaires, il y a tous nos hôpitaux, la police à l'RC et notamment à l'entrée. Et ceux qui n'ont pas la police à l'entrée, la police est dedans, il y a un service de sécurité à l'entrée. Vous ne pouvez pas entrer, il y a une police de l'hôpital à l'entrée pour que ceux qui sont armés laissent leurs armes à l'entrée. Leurs armes soient consignées à l'entrée. Donc, à suivre votre témoignage, monsieur Justet, c'est que on était en train de soigner l'épouse du militaire, et le militaire était là. Donc, on était en train de soigner l'épouse à sa présence. Mm. Or, non, attends, pour des professionnels de l'art de guérir, donc des infirmiers, des médecins, on ne soigne pas le malade devant sa famille. D'ailleurs, on ne soigne pas le malade devant personne. On soigne les malades dans des isolements.
Voilà. Lui, il ne devait pas se retrouver.
Il ne devait pas se retrouver là où on a piqué. Et il voit la réaction de son épouse, peut-être une convulsion, et il dit non, madame veut partir. Alors avant qu'il ne parte.
Maître Ruffin, un instant, on va accueillir le colonel Mwanampoutou, qui est en ligne. Colonel Mwanampoutou, bonjour.
Bonjour, cher ami, comment ça va?
Très bien, merci. Bienvenue dans cette émission, colonel Mwanampoutou. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la police nationale congolaise. Alors, nous parlons du port d'armes des militaires dans un bistrot et boîte avec armes et autres effets militaires. Qu'est dit la loi à ce sujet?
Non, il est prohibé à un homme en armes et en tenue de se retrouver dans un début de boisson, quelles que soient les heures, là. C'est pratiquement prohibé, voilà, ok.
Alors, mais aujourd'hui, c'est devenu fréquent. On les retrouve dans les bistrots avec les civils et parfois même jusqu'à s'enivrer.
Non, je voudrais vous dire que lorsque quelque chose est prohibé et que les personnes qui sont à même, n'est-ce pas, d'observer cette interdiction vont jusqu'à énerver les dispositions réglementaires ou législatives, cela signifie que ils ne sont pas en train, n'est-ce pas, d'exécuter ce qui a été interdit. Et donc, le fait pour quelqu'un de se retrouver en arme et en tenue dans un début de boisson, c'est une proscription qui mérite d'être soulevée et contrainte de la personne, n'est-ce pas, à répondre de ses actes.
Et par rapport au débit de boisson qui ont envahi les camps militaires, où on retrouve militaires et civils ensemble en train de boire,
Non, non, écoutez, autrefois, là, il était question qu'on puisse créer un environnement pour empêcher les militaires de se retrouver à la cité. Voilà pourquoi il a été créé des cantines où on approvisionnait, n'est-ce pas, en denrées de première nécessité pour aussi, n'est-ce pas, empêcher les militaires, n'est-ce pas, de se retrouver dans la cité. Il était vendu aussi quelques boissons alcoolisées comme des sucrés. Et donc, on ne consommait pas ça jusqu'à ce qu'on s'ennuie, non. Et donc, c'était juste pour le bien des policiers ainsi que ses défendants ou des militaires. Mais il est proscrit de voir que au temps actuel, les débits de boissons qui se retrouvent dans le camp militaire ou le camp de police, jusqu'à ce que quelqu'un qui quitte la cité vienne s'enivrer et repartir. Donc, vous avez vu dernièrement à Goma, la conséquence qui est survenue était néfaste. Donc, il n'a jamais été accepté ni inscrit que le débit de boissons se retrouve dans le camp militaire ainsi que la police. Non.
Bien, on va accueillir Gauthier qui nous appelle de Goma. Bonjour Gauthier.
Oui, allô. Jourti, bonjour.
Oui, bonjour Gauthier. Quelle est votre préoccupation?
Bon, moi, premièrement, je vais dire ceci. On ne peut pas condamner toujours les militaires. Les militaires sont toujours condamnés. Pourquoi? La faute revient au gouvernement. Gouverner, c'est prévoir. Est-ce qu'aujourd'hui, les militaires congolais sont bien nourris, sont bien logés? Est-ce qu'il y a des camps? Il y a maintenant, pour le moment, il y a des camps qui sont entourés par des civils. Partout au Congo.
Tous les camps.
Les camps. Un militaire n'est pas formé comme un policier. Un militaire est formé pour tuer, si je ne m'abuse pas. Alors, tout autour des camps des militaires, il y a des civils. Lorsqu'il y a une incompréhension entre un militaire et un civil qui tourne, qui est tout autour du camp, il y aura toujours des problèmes. Un enfant, quand tu le provoques, il a la pierre, il doit toujours jeter. Alors, deuxième des choses, est-ce que les militaires congolais mangent bien? Il y a des rations? Il n'y en a plus. Est-ce que les militaires congolais sont bien logés? Je ne crois pas. Un militaire congolais est bien payé? Je ne crois pas. Quant à moi, je trouve que le militaire congolais est beaucoup plus sérieux, ou soit aime beaucoup son travail par rapport à d'autres militaires. Troisièmement, si vous voulez encore ajouter ceci, on ne peut pas faire l'induction formelle. À partir d'un militaire, on conclut que tous les militaires sont pareils. Non, c'est au gouvernement de construire bien les camps en dehors des populations civiles, un peu éloignées. Il y a de l'espace au Congo, il y en a beaucoup. Construisez bien les camps, avec leurs écoles, avec leurs hôpitaux, avec leurs maisons, qu'ils soient éloignés. Vous savez, les comportements des femmes des militaires sont toujours pareils, différents avec les comportements des femmes des civils. Ils ne peuvent pas être ensemble. Il y aura toujours des problèmes. Donc, quant à moi, gouverner, c'est prévoir.
C'est prévoir.
Que les gouvernements, que les gouvernements fassent quelque chose pour les militaires qui gardent les pays. Un militaire qui n'est pas bien payé, qui ne mange pas bien, qui n'a pas de rations, ses enfants n'étudient pas. Mais il part à la guerre quand même pour servir la nation. Vous comprenez ce que je dis?
D'accord.
Alors, qu'est-ce que le gouvernement fait maintenant? Qu'est-ce que les gouvernements... Mais si un militaire qui prend quelque chose, les ododos, est-ce qu'un militaire a des tenues d'abord? Regardez la différence entre nos militaires et des autres pays. Les tenues là, bizarres, tenues sales, il est là parfois saoul. Nos militaires sont souvent toujours saouls. Pourquoi? Je ne sais pas. Ils ont des soucis. Ils ne sont pas bien payés. Les enfants ne partent pas à l'école. Leurs femmes ne s'habillent pas comme les femmes de l'autre monsieur là. C'est pourquoi parfois ils sont toujours saouls à tout moment. Ici à l'intérieur, je vous dis, Jordi, un militaire parmi les 100 militaires, vous allez trouver 60 qui sont saouls à tout moment. Pourquoi? Ils ont des soucis.
Bien, merci Gauthier. Ouais. On a compris.
Il est là avec des tenues bizarres, on l'appelle Kundilele. Non, Kundilele, frappe pour. Est-ce qu'ils sont encadrés d'abord?
Merci Gauthier de Goma, merci beaucoup. Colonel Mwanaputu, une réaction?
Ah ouais, merci beaucoup, merci Jordi, merci.
Colonel Mwanaputu. Il n'est plus là. Donc, maître Ruffin.
Mais on n'a pas dit que notre armée est indisciplinée, pas du tout. Donc, Gauthier à Goma, on n'a pas généralisé. On ne peut pas généraliser. Notre armée, c'est l'une des meilleures armées d'Afrique pendant plus de 30 ans. Et ça, c'était incontestable. Notre armée a été la première armée d'intervention en Afrique, dans d'autres pays africains. La première armée qui est partie remettre la paix, retourner la paix, sécuriser des institutions publiques de notre pays en vertu des conventions de l'Union africaine. Mmh. Notre pays donc a été le premier. Aujourd'hui, c'est d'autres pays qui le font, qui prennent du succès, mais le premier précurseur, c'est le Zaïre. Donc, nous avions l'armée, et nous avons l'une des armées les plus fortes d'Afrique. Il ne faut pas, et notre armée n'est pas indisciplinée. Parce que déjà, lorsqu'une armée, il y a de la discipline, parlait aussi qu'il n'y a pas de justice.
Maître Ruffin, on n'a plus beaucoup de temps. Pour conclure, qu'est-ce qu'on retient?
Pour conclure, on retient d'abord que il faut faire respecter nos textes. Dans les marchés publics, les militaires doivent laisser l'arme à l'entrée. Dans les hôpitaux, vous devez laisser l'arme à l'entrée. Donc, consignez, pas laisser comme pour la population, abandonner, non. Consignez l'arme pour sécuriser ce qui est dedans, là où vous entrez. Et donc, c'est cette absence de respect de nos textes, de respect de nos règlements par nos autorités qui doivent faire respecter ça, qui entraîne tous ces dégâts. Et nous ne dirons jamais assez, veillons. Et il y a des vrais ministres, le ministre le plus élu, le meilleur ministre, les warriors. S'il ne peut pas faire respecter les lois du pays dans son secteur, il n'est pas warrior, il n'est pas le meilleur. Le meilleur, c'est par les résultats.
Les résultats. Merci, Maître Ruffin Louko Moussouba. Louko Moussouba, juriste et chercheur et écrivain en droit, qui vient d'ailleurs de publier son dernier livre, Droit pénal congolais, Principes et subtilités, tome 3. Bonjour, bonne journée et à la prochaine.
Merci beaucoup.